8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité, ce matin l'essayiste Mathieu Bock-Côté qui publie « La révolution racialiste et autres virus idéologiques ». C'est aux presses de la Cité.
Bienvenue à vous et bonjour Mathieu Bock-Côté.
Bonjour.
On va donc parler virus ce matin, mais pas celui que l'on croit puisqu'il est question de virus dans votre livre « La révolution racialiste et autres virus idéologiques ». Vous lancez l'alerte contre un fanatisme identitaire qui avance, dites-vous, sous couvert d'antiracisme et d'inclusion. Vu du Québec, tout d'abord, comment la France est-elle perçue face à cette offensive?
Ben, la France est vue comme la nation qui résiste aujourd'hui. Alors, je sais que les Français ont quelquefois l'impression d'être ensevelis par cette révolution, d'être dominés. Or, vu de loin, je pense que la France résiste et les premiers à le savoir, ce sont les Américains. Quand on regarde ce qui se passe, par exemple, dans le New York Times, le Washington Post, moi, le New York Times, je surnomme ça, c'est la Pravda de l'idéologie officielle, c'est la Pravda du régime diversitaire ou de la révolution racialiste. On ne cesse de culpabiliser la France en la présentant comme une forme d'union soviétique qui écraserait ses minorités, qui les bulldozerait. Or, le fait est que la France tient par son attachement à l'universalisme, mais un universalisme qui n'est pas désincarné, qui est ancré dans la culture française, les mœurs françaises, dans l'histoire française. La France résiste aujourd'hui, et pas simplement idéologiquement, mais pas de tout son être, je crois, à cette révolution. Alors évidemment, elle est traversée quand même par ces courants idéologiques. Ils sont présents dans l'espace public, mais l'originalité française, c'est de résister, me semble-t-il, à cette révolution qui est d'une grande violence idéologique aujourd'hui. Et nous ne sommes pas devant, il faut le redire, ça je pense, nous ne sommes pas devant un réformiste, nous ne sommes pas devant des revendications modérées dont on pourrait parler. Nous sommes devant une forme d'agressivité idéologique très forte, la tentation totalitaire, et la France, devant cela, résiste.
On va en parler justement de cette tentation, et les mots sont forts, totalitaires, mais est-ce que les Français en sont conscients? Parce que j'ai lu, Mathieu Bock-Côté, que vous demandez parfois, vous vous demandez si les Français sont vraiment conscients de la profondeur de leur culture et de la vision du monde qu'elle exprime. Vous pensez qu'il faut être étranger ou né ailleurs pour le remarquer, le ressentir davantage?
Je crois que certains Français le savent, mais cela dit, alors la tentation des Français, c'est de se croire immédiatement universel. Alors les Français, ils oublient tout le temps à quel point se croire à ce point universel, c'est si français. Et donc la tentation, l'universel est inscrit ici dans une histoire, une culture, un rapport aux politiques, un rapport à l'histoire, un rapport à la mémoire, un rapport à l'individu, un rapport à l'émancipation. Donc il y a en France une capacité de résistance qui va au-delà des idéologies. Et c'est je crois, la marque distinctive de la France dans tout ça, c'est qu'elle n'oppose pas simplement une idéologie à une autre. C'est, je dirais, de tout son être qu'elle résiste spontanément à ces idéologies qui déferlent. Donc, on le voit par sa défense de l'universalisme, oui, mais qui est une expression de la culture française. On le voit dans sa méfiance envers toute la catégorisation raciale des populations. On le voit dans son sens du politique. Mm-hmm. Je pense qu'il y a toute une série de choses qui s'emboîtent et qui font que la France, aujourd'hui, devient le point d'obstacle. Je dis quelquefois, de manière un peu moqueuse, que c'est le destin vendéen de la France républicaine. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit là, dans le monde anglo-saxon, la France comme le pays contre-révolutionnaire qui refuse de se soumettre à l'idéologie dominante, qui refuse de se soumettre à cette révolution racialiste. Et bien moi, de ce point de vue, j'espère que la France va tenir, qu'elle ne cédera pas.
Donc, à vous entendre, la France singularise encore. Mais que répondez-vous, Mathieu Bock-Côté, à ceux qui vous opposent le fait d'exagérer ce que vous appelez cette révolution racialiste, de l'amplifier vous-même en y consacrant enquête et ouvrage, alors qu'il s'agit de minorités souvent?
Alors, les minorités idéologiques, j'entends, pas les minorités au sens ethnique, les minorités idéologiques font l'histoire. Le discours que je présente, hein, c'est-à-dire avec tout ce vocabulaire racisme systémique, privilège blanc, racisé, suprématie blanche, hein, le concept ne désigne plus aujourd'hui, soit dit en passant, des mouvements comme le Ku Klux Klan. Non, ça désigne aujourd'hui la structure même des sociétés occidentales, faut le savoir. Ce discours-là, en Amérique du Nord, il est dominant, il est normalisé aujourd'hui. C'est ça le discours normalisé aujourd'hui. Et il traverse l'Atlantique, hélas.
Vous voulez dire qu'il y a une sorte d'hégémonie idéologique?
Hégémonie idéologique, mais qui n'est pas présente seulement dans l'université. Vous savez, l'erreur, je crois, de bien des Européens, c'est qu'on regarde les campus américains et on dit « mais ils sont fous, ces Américains ». Or, ce n'est plus une exclusivité des campus américains. Ce discours-là, il est présent dans les grandes entreprises. Apple, Coca-Cola. Coca-Cola, tout récemment, je donne un exemple, propose un séminaire à ses employés pour leur apprendre à devenir moins blancs. Leur apprendre à devenir moins blanc, se déblanchir. On s'inspire ici des travaux de Robin DiAngelo, une des principales idéologues de ce courant de pensée, qui explique, par exemple, dans ses travaux, que toute sa vie, elle devra travailler à cesser d'être blanche, à rompre avec sa blanchité, et tout en sachant qu'elle n'y parviendra pas. C'est une forme d'expiation sans rédemption. Et donc, c'est un partage des sociétés entre, d'un côté, le blanc transformé en créature maléfique, le racisé transformé en figure messianique, et à travers tout cela, c'est le fantasme de la guerre des races qui se présente. Dans le langage de l'émancipation.
Vous alertez sur le risque d'aboutir à une société, dites-vous, liberticide et conflictuelle, en plus de réinventer le principe, quand même, c'est fort, de ségrégation raciale, mais on laisse faire. qui laisse faire? Avec la complicité de qui?
Je pense que c'est le grand problème à travers ça. C'est une forme d'impréparation mentale des élites politiques qui font des concessions à des concepts comme racisme systémique, privilège blanc, tout ce vocabulaire-là. On ne se rend pas compte que lorsqu'on achète un de ces concepts, on les achète tous. Hein, ils viennent en grappe. Donc, si vous achetez racisme systémique, vous achetez privilège blanc, vous achetez racisé, et vous vous représentez ensuite la société sur le mode de l'obsession raciale. Je précise, ou encore la tentation aujourd'hui très forte de présenter comme discours haineux toute forme de contradiction de l'idéologie dominante de ce prétendu antiracisme. Je donne un exemple qui vient d'Écosse dans le livre, une loi, la loi de Youssef, où désormais les propos dits haineux seront interdits à la maison. On sait ce que peut vouloir dire un propos haineux aujourd'hui. Être en désaccord avec l'idéologie dominante.
À la maison,
dominante.
C'est-à-dire qu'on va aller surveiller ce qui se passe dans votre foyer, dans votre salon.
C'est la possibilité de la délation de celui que vous êtes à la maison. Vous recevez un ami, il n'aime pas trop ce que vous dites. Eh bien, il a la possibilité désormais de vous dénoncer parce qu'à la maison, on ne devrait pas tolérer des propos qui sont classés comme haineux aujourd'hui.
Propos, Mathieu Bocoté. C'est-à-dire que le langage est déterminant dans cette culture woke, hein, dites-vous. Oui. Donc la bataille, elle se joue sur les mots, sur les concepts.
Ça, c'est fondamental. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'un travail d'hygiène intellectuelle, d'hygiène mentale, parce que comment fonctionne aujourd'hui la révolution racialiste? Elle s'empare de concepts à forte connotation idéologique et émotionnelle. Le mot racisme, nous sommes tous horrifiés par le racisme. Le racisme est fondamentalement détestable. Mais ensuite, elle en propose une définition nouvelle. On va nous dire que le racisme, ce n'est plus la haine raciale, ce n'est plus la détestation. Non, c'est l'universalisme, par exemple, qui masquerait dans les faits une structure de domination raciale inégalitaire dans nos sociétés. Et Ibram X. Kendi, par exemple, un des principaux idéologues du nouvel antiracisme américain va nous dire le vrai problème, c'est pas la alt-right, la droite raciste. C'est la prétention à l'universel, c'est ce qu'ils appellent le daltonisme racial, le fait de ne pas voir les couleurs. Le vrai racisme, c'est de ne pas tenir compte de la race. Donc là, on a une forme d'inversion de la signification des concepts, c'est très orwellien. Racisme change de définition, suprématie blanche. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la suprématie blanche? Ce n'est plus le Ku Klux Klan avec des espèces de tuniques étranges, c'est désormais la prétention à l'universel. J'y reviens parce que le concept d'universel, il est central dans
oui,
tout ça.
Oui, mais pardonnez-moi, Mathieu Bocoté, on va vous dire sur ces concepts que vous agitez que c'est aussi la liberté d'expression. Qui va faire le tri aujourd'hui entre ce qui relève ou pas de ce régime diversitaire?
Les gens peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Moi, ça me dérange pas. Moi, je suis très libéral. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent vraiment. Ensuite, je réclame le droit, quant à moi, de faire un examen, justement, sous le signe de l'hygiène démocratique de ces concepts. Et je vous le redis, on n'est pas simplement dans un discours qui est dans 2 ou 3 campus. C'est le discours qui est présent dans les grandes entreprises. C'est le discours qui est présent dans la classe politique, juste un peu moins parce qu'elle est obligée de tenir compte de l'existence de cette catégorie résiduelle qui s'appelle les électeurs. Mais
vous voulez dire que c'est simplement par souci électoraliste que certains s'y opposent.
Traiter le peuple de raciste à temps
glorieux.
Plein quand on doit lui demander de voter pour soi de temps en temps, ça cause problème. Mais dans les grandes entreprises, notamment dans les ressources humaines, vous noterez, ils appellent ça désormais l'approche EDI, équité, diversité, inclusion. Au nom de ça, on inflige aux employés partout en Amérique du Nord. C'est la nouvelle norme. Des critères, on va les accuser. On leur demander, par exemple, de s'accuser de racisme systémique. On va les demander de dénoncer leurs propres privilèges.
Un exemple. Je voudrais vous faire réagir à la dernière polémique en date, Evian.
Oui.
Evian qui s'excuse pour avoir invité à boire de l'eau donc le premier jour du Ramadan. Evian s'excuse suite à un déferlement de critiques sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que cela vous a inspiré?
C'est absolument fascinant. C'est-à-dire, on propose de boire de l'eau, ce qui est assez normal pour une compagnie qui vend de l'eau. Réaction sur les réseaux sociaux de manifestement pas des musulmans ordinaires. On est devant des gens assez radicaux, probablement des islamistes. Eh bien, ça prend pas quelques heures qu'Evian capitule en disant « je ne voulais pas vous vexer ».
Capitule, vous avez dit?
Bien sûr.
C'est une capitulation d'Evian?
Quand on décide de s'excuser, « je ne voulais pas vous provoquer », c'était un tweet qui n'était pas mal intentionné, nous dit-on. J'espère que c'était pas mal intentionné, buvez de l'eau.
Oui, mais là, quand l'autre en face est offensé.
Mais il n'y a pas de droit à ne pas être offensé. Ça n'existe pas, le droit de ne pas être offensé. Et surtout, ce droit qui par ailleurs est reconnu hélas aujourd'hui consiste à accorder le privilège des susceptibles. On absolutise la susceptibilité en fait des hypersensibles qui peuvent désormais imposer leur propre définition du blasphème. Et je précise, soit dit en passant, que ça va sur d'autres questions. Pensez à J.K. Rowling par exemple, qui pour avoir rappelé qu'un homme n'était pas une femme par exemple, proposition audacieuse s'il en est une, a été accusée de transphobie.
Alors face à tout cela, quel projet, quelle vision? Faudrait-il oser des mots tabous, c'est ce que vous dites aujourd'hui, comme la démocratie au nom d'idées? Faudrait s'accrocher à des idéaux?
Mais je pense d'abord et avant tout qu'on doit s'accrocher à nos cultures. C'est bête à dire, mais une des grandes faiblesses, je crois, c'est de croire qu'on peut se défendre ça avec des principes désincarnés. Ce qui fait la force de la France, ce n'est pas simplement son adhésion quelque peu désincarnée à une république incandescente. C'est la culture française, les mœurs françaises, la langue française, la littérature française, l'être français, qui se donne par ailleurs dans une forme politique à prétention philosophique qu'est la République. Très bien. Mais si on se contente, et ça, c'est je pense, faites l'histoire du 20e siècle. La démocratie ne se défend jamais d'elle-même si elle ne s'ancre pas dans un principe de civilisation. Moi, je donne toujours ces trois exemples. Churchill, De Gaulle, Solzhenitsyn.
Oui, ils mais ont n'est tenu... pas De Gaulle, n'est pas Churchill, n'est pas Solzhenitsyn qui veut.
Faut quand même se donner des bons modèles. Je veux dire, on va quand même pas prendre comme modèle le dernier crétin du coin de la rue. Alors, on prend et on voit au nom de quoi ont-ils été capables de se défendre. Au nom d'une certaine transcendance, le sens de la patrie, le sens de la civilisation, le sens de l'histoire, le sens des libertés. De ce point de vue, je pense qu'il nous faut revisiter l'histoire de la résistance aux idéologies totalitaires parce que la révolution racialiste est une révolution en prétention, enfin, à logique totalitaire et en se faisant croire qu'on se bat contre une forme de réformisme un peu exagéré, mais qui aurait bon cœur, non.
Vous vous rendez compte des conséquences, Mathieu Bock-Côté, dire logique totalitaire aujourd'hui. Vous êtes un opposant à ce régime, en fait, diversitaire, que vous appelez fanatisme racialiste. Qu'est-ce que vous risquez?
Je pense que dans les faits, quand on décide de s'opposer à ça, il faut accepter, on va se faire traiter de type d'extrême droite, c'est inévitable, de raciste. Toutes ces insultes viendront. Je pense que devant cela, il faut simplement se carapacer un peu, se donner une bonne armure mentale, accepter que le prix à payer aujourd'hui pour exprimer cette dissidence, ce désaccord, il va avoir tous les patrouilleurs de la circulation idéologique qui vont chercher à nous traiter. Vous êtes nauséabond, hein? Ils pensent du nez, ces gens-là. C'est l'argument olfactif. Vous êtes nauséabond, vous êtes sulfureux. Il faut s'en ficher un peu, tenir tête à ce discours, et je pense véritablement qu'on peut, on peut encore tenir, mais ça sera pas éternel, parce que ce discours-là devient dominant dans les institutions. Or, quoi qu'on en dise, le régime, c'est mon côté très aristotélicien, le régime commande dans nos sociétés. Quand cette idéologie domine l'université, les médias, domine le langage de l'administration, souvent, quand l'administration se met à parler de langage racialiste, eh bien, à un moment donné, on est dans mauvaise situation. Il faut tenir, ne rien céder.
On a compris. Vous tenez, vous êtes en tous les cas un passionné. Vous n'hésitez pas à descendre dans l'arène pour défendre vos idées. Merci de l'avoir fait ce matin sur Europe 1 avec ce livre La Révolution racialiste et autres virus idéologiques aux presses de la Cité. Merci beaucoup Mathieu Bock-Côté.
Merci bientôt. Infiniment.